Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Je pense qu'il y a des moments où il y a des choses qui se présentent. En fait, c'est la petite voix, ou alors moi, je dis souvent, les antennes sont sorties. C'est-à-dire qu'en fait, on a des antennes, tout d'un coup, on veut bien les sortir, et puis, bip, bip, ça sonne à droite, ça sonne à gauche, je ne sais pas, et puis, hop, on prend une direction, voilà. Mais on peut, à certains moments de sa vie, avoir les antennes totalement rentrées. Et là, c'est sûr qu'il ne se passera rien du tout. Mes peurs, c'est pas tant de changer de vie, c'est effectivement ma peur, ça a été de me dire, j'attends la retraite. Donc maintenant, j'ai plus peur.
Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi, en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. En ce moment, c'est la bouche pour Pourquoi pas moi. Il y a la sortie du programme pour vous permettre d'écouter votre petite voix et savoir où est votre place. Mais aussi, dans un mois et demi, la sortie de mon livre qui va s'intituler « Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail ?» C'est d'ailleurs dans ce contexte que j'ai rencontré mon invité du jour. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment ? En vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Un immense merci. Revenons-en à Marion. Marion a 60 ans et a passé sa vie à écouter sa petite voix. Après 3 semaines de fac de droit, elle s'est inscrite dans une école d'art décoratif. Elle a été maquettiste, puis a monté son entreprise. Elle a été ensuite, pendant plus de 20 ans, dans la même maison d'édition, jusqu'à septembre dernier, où, à 2 ans de la retraite, elle a décidé de ne pas attendre et de se lancer en tant que vitrailliste. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marion de Rouvray. Bonjour Marion.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Ah oui, alors, l'objet que j'ai choisi, d'ailleurs, il ne va pas être très loin de moi, là. C'est un galet parce que, alors j'ai cherché longtemps hein, l'objet, c'était pas simple, hein. Ça aurait pu être un livre, alors du coup lequel, après des morceaux de verre, puisque maintenant je me suis lancée dans le verre, mais bon, en même temps, c'était un peu froid. Et en fait, le galet, parce qu'en fait, je m'aperçois que chez moi et partout autour de moi, il y a toujours un galet, parce que ouais. Je vais souvent sur des plages de galets et que j'en ramasse. Et comme quand on est petit, on ramasse des coquillages, moi maintenant, je ramasse des galets. Et des galets en plus particuliers puisqu'ils ont un trou, ils sont troués ces galets-là. Donc sur les plages de Normandie, sur la côte d'Albâtre, on trouve des galets troués. Et on peut en faire des colliers, bon, un peu lourds, mais bon.
Ouais.
Donc il y en a toujours. Donc ça doit être un peu comme un porte-bonheur. J'aime bien les avoir autour de moi. Ça me rappelle aussi le bruit de la mer et les galets qui roulent et voilà. Ce son là me fait du bien. Voilà.
Et ce galet que tu as choisi, est-ce que celui-là en particulier, tu te rappelles de son histoire?
Ah non, disons, non. Après, il y en a plein, il y a différentes tailles, mais voilà.
Là, c'est le galet inconnu.
Photo avec 3 galets, voilà. Le galet inconnu, justement.
Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter de là où est-ce que tu es né, là où tu es né, de là où tu viens?
Alors, je suis parisienne, mais alors parisienne.
Ouais, de quel quartier?
J'ai vécu dans les beaux quartiers bourgeois du 7e arrondissement. J'étais dans une école religieuse, donc j'ai tout un passé très bourgeois parisien, dont je n'ai pas honte, mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, je n'habite plus à Paris, je suis en banlieue, j'ai franchi le cap il y a quelques temps et je suis très contente d'être en banlieue. Et voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là.
Et tu étais quel type de petite fille ?
Plutôt gâtée.
Ouais.
Une petite fille plutôt classique, on va dire. Hein. J'ai grandi en duplicité et voilà, j'ai commencé à m'émanciper vraiment une fois que j'ai passé mon bac.
Ouais.
J'ai mon bac assez tôt, un an d'avance, à 17 ans. Je me suis dit, bon, je vais faire du droit parce que mes parents me disaient, c'est très bien de faire du droit. Ou pas d'ailleurs, mais bon, voilà, donc je suis rentrée en fac et au bout de 3 mois, j'ai arrêté la fac. Voilà, j'ai dit, ça a commencé, c'est là où finalement le sujet de la petite voix a commencé, puisqu'au bout de 3 mois, je me dis, qu'est-ce que je fais là ?
Ouais.
Du droit, mais j'ai aucune envie de faire du droit. Je ne sais pas quoi faire, donc j'ai arrêté. Voilà. Aux grandes dames de mes parents. Mais
ouais, comment ils ont réagi ?
Bah, pas bien, en disant, bah, tu as le droit de changer de voie, mais continue au moins ton année. Ben non, pourquoi continuer puisque je ne veux plus faire ça.
Ouais.
Donc, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et c'est vrai que du haut de mes 17 ans et demi, alors que tout était bien cadré, tout d'un coup, j'ai commencé à faire une petite révolution en moi aînée,
ouais.
En me disant, mais non, voilà, il faut que je me trouve. Et je me suis cherchée pendant quelques mois et je savais que je voulais aller vers une voie artistique. Ouais. Sans savoir laquelle, parce que je n'avais aucune prédisposition a priori. Donc, j'ai arpenté les cours de théâtre en me disant que je vais être comédienne. Ouais, pour te dire que j'étais dans tous les espèces de grandes révolutions intérieures. Et puis, jusqu'à aller sur des bancs d'école d'art, parce que j'avais un copain qui était là, qui m'a dit « mais viens voir, c'est super ». Et là, quand je me suis assise avec une feuille de papier, un crayon, un carton à dessin, ça a été super, une révélation. Et j'ai dit « je veux faire du dessin ».
Et sachant que tu dessinais pas précédemment ?
Non, mais pas du tout.
Non, c'était quand t'étais une petite fille, tu prenais pas un qu'à...
Non, je prenais rien du tout. En fait, c'était, après coup, je peux l'analyser comme ça, puisqu'en plus, j'ai une carrière effectivement après, au début, un peu artistique. Mais, je n'ai pas du tout, je ne me sens pas artiste au fond de moi-même. Je n'ai pas effectivement, une vision, enfin, j'aime la notion artistique, mais je ne suis pas artiste, je ne me considère pas comme une artiste, je ne suis jamais considérée comme une artiste, mais j'aime ce milieu, j'aime ça, donc, et j'aime côtoyer ces gens-là, donc en fait, voilà. Et du coup, après, mes études m'ont formée vers des études d'art graphique, ouais. Et ensuite, j'ai été effectivement plus vers l'édition, ça s'est trouvé comme ça. Et en suivant un parcours graphique, enfin, au début publicitaire et après plutôt vers l'édition.
Tu as été vers l'édition, du coup, suite à ton, quand tu as fait ces études d'art graphique, à ce moment-là, tu avais une idée de ce que tu avais envie de faire après ?
Non, j'avais envie de, voilà, c'était plutôt, au début, je suis partie plutôt sur la pub parce que dans les années 80, c'était assez, voilà, c'était là où il y avait du boulot, on trouvait du boulot facilement, dans un studio publicitaire, on faisait des maquettes, bon, voilà. Et puis, c'est trouvé que, un peu par le hasard, et voilà, c'est un peu comme ça, la vie professionnelle marche un petit peu comme ça, par palier et par rencontre. Je me suis retrouvée, effectivement, à travailler toujours graphiquement, mais dans un milieu d'édition.
Ouais.
Voilà. Et après, j'ai même eu ma propre petite maison, pas d'édition, mais de packager d'édition. J'ai un long parcours. Alors, si on commence à tout toucher, j'arrive quand même au Dune, mais. J'ai quand même donc 60 ans cette année, j'ai 60 ans cette année, donc voilà, ça fait 40 ans que je travaille, finalement, presque 40 ans quand même. Donc le parcours est long, donc j'ai eu plein d'opportunités et plein de portes, j'ai eu la chance, plein de portes qui se sont ouvertes, dans lesquelles je me suis engouffrée, qui m'ont permis d'avancer, d'évoluer, de... Je considère que j'ai pas eu une vie professionnelle de grand renom, j'ai eu beaucoup de chance en fait, beaucoup de rencontres.
Ouais.
Et je pense qu'aussi je me suis écoutée pour reprendre l'idée de la petite voix. Je pense que je n'ai eu aucun problème pendant toute cette période professionnelle à faire des changements, à rebondir. Peut-être le seul moment où j'ai pas osé rebondir, c'est quand je me suis retrouvée effectivement séparée avec deux enfants un peu à charge, enfin carrément à charge, où là effectivement les choix étaient le choix économique de attention, là on rigole plus, faut que l'argent tombe quand même régulièrement tous les mois et c'est pas le moment d'aller voilà changer de ouais. changer de boulot.
T'avais quel âge du coup quand ça t'est arrivé?
Ma séparation.
Ouais.
35 ans, 38 ans.
Et donc là, à ce moment-là, quand tu t'es retrouvée avec tes deux enfants à charge, qui avaient à peu près quel âge ?
3 ans et 6 ans.
Ouais, donc était petit. Donc c'est à charge à la fois financièrement, mais aussi
Oui. C'était très prenant. Donc à cette époque-là, j'étais indépendante.
D'accord. Qu'est-ce que tu faisais ?
Eh ben, j'étais maquettiste indépendante, mais mes clients étaient plutôt effectivement plutôt pour l'édition déjà. Ouais. Voilà, donc je faisais des maquettes de bouquins ou des couvertures de livres. Enfin, vraiment un travail de graphiste.
D'accord.
Et plutôt, ma clientèle était plutôt des maisons d'édition. Et là, j'étais indépendante et c'était voilà, fallait là. Et donc là, j'ai eu l'opportunité d'avoir un boulot fixe.
Ouais.
C'est à ce moment-là, un peu plus tard, que je suis rentrée donc chez Mango, une maison ouais. d'édition qui s'appelle Mango. Donc ça fait 20 ans. Et du coup, j'ai pris l'opportunité de prendre un poste fixe. Ouais. Mais j'étais contente. Hein. C'est un choix que j'ai fait délibérément. Mais je sortais vraiment d'une période d'indépendante. Un travail salarié.
Ouais. Comment tu l'as vécu ? Parce que c'est pas forcément.
C'était bien parce que effectivement, c'est une boîte qui me plaisait bien déjà. Donc voilà. Après, je devais diriger 4 personnes. Je sortais d'une boîte que j'avais aussi moi-même montée. Donc je voulais plus avoir de personnes à charge. Mais bon, là, j'ai accepté. ça. Et puis non, c'était bien, c'était très vivant, c'était très sympa, voilà, ça changeait, mais c'est vrai que c'était fixe, donc c'est très rassurant, beaucoup plus rassurant que d'être indépendant. Ouais.
Et le fait d'avoir un manager, parce que bon, bah voilà, on sait très bien que quand on est à son compte, on est son propre manager. Comment tu l'as
avoir un manager, c'était bien aussi, surtout que c'est quelqu'un que je connaissais, qui était en fait un ami à moi. C'est une date, un mec génial qui malheureusement est décédé aujourd'hui qui s'appelait Yves de Saint-Vincent et qui était un manager incroyable, un type qui prenait des risques, qui allait dans des endroits où normalement on n'allait pas forcément, qui était c'était une ambiance assez incroyable.
Ouais.
Donc juste... là on était portés.
Et donc du coup, parce que bon, quand on va sur ton profil LinkedIn, il y a pas grand chose. Hein, si c'est, je crois que tu es la personne où il y a le moins de choses sur Internet.
Je sais pas pourquoi j'en ai un d'ailleurs. Je
Mais donc du coup, dans les grandes étapes, parce qu'en effet, on va pas forcément aller dans chaque job. Donc t'as été salarié. Ensuite, tu t'es lancé à ton compte. En effet, donc j'imagine que comme tu disais, t'as écouté ta petite voix à ce moment-là.
Oui. Je l'ai écouté, en tous les cas, ça s'est présenté, quoi. En fait, les choses, je pense qu'il y a des moments où il y a des choses qui se présentent. En fait, c'est la petite voix, ou alors moi, je dis souvent, les antennes sont sorties. C'est-à-dire qu'en fait, on a des antennes, tout d'un coup, on veut bien les sortir, et puis, bip, bip, ça sonne à droite, ça sonne à gauche, je ne sais pas, et puis, hop, on prend une direction, voilà. Mais on peut, à certains moments de sa vie, avoir les antennes totalement rentrées. Et là, ouais. C'est sûr qu'il ne se passera rien du tout. Ouais. Parce qu'on n'est pas non plus, on n'a peut-être pas envie, on est renfermé sur soi-même, je ne sais pas, mais bon. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu effectivement l'opportunité d'avoir ma propre entreprise, voilà, et avec une associée, on était deux et on a monté une petite boîte de packaging d'édition. C'est-à-dire qu'en fait, on réalisait.
Ouais.
Pour des maisons d'édition, des projets.
D'accord.
Voilà, soit commandés par eux, soit ouais. nous-mêmes, on les proposait à des maisons d'édition. On était donc, plutôt sur un créneau de jeunesse.
Ok. Voilà. Donc vous veniez avec pour les gens qui n'y connaissent rien à l'édition, ouais. Vous veniez avec l'idée de dire bah tiens, on va faire écrire un livre sur cette thématique qui va être dans exactement. Telle collection.
Exactement. Vous proposez des collections.
Ouais, d'accord.
C'était le principe. Donc, mon associé était plutôt sur la partie éditoriale.
Okay.
Et moi, comme tu peux le voir, j'étais sur la partie, vu ma formation, la partie graphique.
D'accord.
Après, mon parcours professionnel m'a fait évoluer puisque mon dernier boulot, en fait, était responsable éditorial sur la partie jeunesse. Donc, j'ai évolué. J'ai toujours gardé le côté artistique, mais bon, voilà. Après, je suis passée plus côté édito, comme on dit dans l'édition.
Et quand t'es passée à ton compte, donc avec ton associé, c'était quoi tes peurs à ce moment-là? Est-ce que tu t'en rappelles?
Mes peurs, professionnellement, les peurs, c'est toujours de ne pas réussir son objectif, quoi. Que le client soit pas satisfait, que ce soit pas parfait, etc. Moi, j'ai un peu la tendance un peu perfectionniste. Voilà, j'ai un peu du mal à être finalement satisfaite au bout du compte, toujours du résultat fini. Ça, ça, ouais. Ça existe toujours. donc voilà, donc les peurs étaient ça. Après, on avait quand même une petite société, on avait des salariés, on était,
d'accord,
on a dû être 10.
Okay.
Et là, les peurs étaient, voilà, je vais pouvoir tous les mois. Et du coup, on acceptait des boulots qui, moi, ne me satisfaisaient plus.
Ouais.
Donc, du coup, j'ai lâché l'affaire au bout de 10 ans.
D'accord.
Voilà.
Donc 10 ans d'entrepreneuriat, donc c'est là où après, ensuite, tu as rejoint donc Mango au moment où.
Je me suis retrouvée indépendante pendant un moment.
D'accord. Donc toute seule.
Phase, toute seule, indépendante. Ouais. Et puis après, j'ai repris une activité salariée.
Ouais.
Vraiment salariée chez Mango.
Et tu avais une affinité particulière avec les livres ou ça a été plus, ça s'est mis sur ton chemin?
Ça a été un petit peu mis sur mon chemin.
Ouais.
Oui. Bon, les livres, j'en ai toujours eu autour de moi, mais ça s'est mis sur mon chemin un petit peu.
Ouais.
C'est un peu le fait du hasard. La pub, c'était pas trop mon truc. Donc c'est vrai, quand on m'a proposé mon premier job après dans une petite boîte, effectivement d'édition, mi-communication, c'est vrai que ça m'a plu.
Ouais. Et quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves d'enfant?
J'ai pas beaucoup de souvenirs de rêves d'enfant.
Ouais.
Non. J'ai très peu de souvenirs d'enfant. Enfin, j'ai des souvenirs d'enfance, mais j'ai très peu de souvenirs de rêves d'enfant.
Tu disais pas quand je serai grande, je serai maîtresse ou je ne sais ou que sais-je?
Non. Non, c'est drôle, c'est une question qu'on pose souvent, hein, mais moi, ouais, je l'ai pas. Ou alors, ça reviendra plus tard. quand les gens sont très, très vieux, ils ont des réminiscences de choses de très, très jeunes. Alors, peut-être que ça reviendra à ce moment-là. Je n'ai pas une enfance très malheureuse, mais j'ai pas une enfance non plus, je sais pas. Je savais pas très bien ce que j'avais envie de faire. Pour plaire à mes parents ou je sais pas, quand j'ai commencé à mes études, j'ai fait du droit, effectivement, comme je te disais, pendant 3 mois, parce qu'en fait, je voulais être juge pour enfants. C'est n'importe quoi, je veux dire, parce que j'ai 3 mois, se dire que ça me... Enfin, voilà, je m'étais mis ça dans la tête, je sais pas pourquoi, voilà. Juste pour enfants. Mais du coup, après, j'ai fait des livres pour les enfants. Donc,
oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que t'as rebouclé...
Oui, ben voilà, quand même, l'affinité, elle était peut-être là, de m'occuper d'avoir une activité liée à l'enfance, peut-être.
Ouais.
Peut-être c'est ça.
Qu'est-ce qui t'attirait dans le fait d'être juge pour enfants?
Je ne sais pas du tout. Je trouvais ça faisait bien, non? Non, ça fait.
Ouais.
Non, quand on dit à 16 ans ou 15 ans ou 14 ans, non, tu veux faire quoi? Juge pour enfants. Là, ça. Ouais, ça pose un peu.
Ouais, carrément, mais il y a des personnes qui étaient juges dans ton entourage?
Non, pas du tout. Non. Je ne sais absolument pas pourquoi je voulais être juge.
Tu ne sais pas d'où ça vient, ouais, t'as pas eu.
Mais en fait, il fallait aussi. Il fallait avoir, quand on était tout le monde, on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard.
Ouais.
Voilà, moi, je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais il y a sûrement une raison pour laquelle.
Ouais. Tu sais plus.
Je sais pas vraiment. Aussi, pour avoir quelque chose, ma mère, elle aurait bien aimé que je sois, j'ai pas besoin forcément d'avoir un boulot très intéressant. Elle m'a dit, tu pourrais me faire de taper à la machine. Elle m'a dit, tu peux être secrétaire. Sympa, moi j'avais aucune envie d'être secrétaire. Mon frère faisait de l'architecture, je trouvais ça plutôt mieux de faire l'architecture. Mais les filles, on était secrétaire.
Ouais.
C'était quand même un milieu bourgeois, mais bon.
Ouais. Bah, je vois ma maman qui est à peu près, enfin qui est un petit peu plus vieille que toi, mais pas beaucoup plus, qui a grandi pareil. Moi, elle a grandi à Neuilly et en gros, donc famille bourgeoise, enfin avec les moyens de pouvoir offrir des études à leurs enfants, enfin pour mes grands-parents. Mais en fait, ils ont dit, bon, bah, tes frères, ils vont faire des études, mais toi, t'as pas vraiment besoin, en fait. Et c'est, ouais.
C'était un peu ça aussi.
Ouais.
Donc, du coup, mais on n'empêchait pas non plus, hein.
Non, non, non. Mais bon, c'était pas incité. C'était voilà, pas encouragé.
Voilà. Ouais. Donc, après, quand j'ai décidé de faire du droit, ils ont trouvé ça très bien. Puis, ils disaient, je voulais être juge pour enfants. Donc, il fallait faire du droit.
Ouais.
Après, au bout de 3 mois, je m'arrête en disant, non, je m'arrête. Pourquoi tu t'arrêtes? Ça, c'était mon père. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que je m'arrête. Si j'ai pas envie de faire ça, je m'arrête. Et j'ai besoin de réfléchir à autre chose. Et ça a toujours été, moi je trouve ça très important, on n'a pas obligé de, aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui peuvent faire une année, ma fille a fait une année après son bac, ouais. elle a rien fait, la méthode anglo-saxonne, où ils vont aller partir d'ailleurs le plus loin possible en Nouvelle-Zélande, donc pour être le plus loin possible et réfléchir à sa vie, je trouve ça très bien. En France, on n'a pas du tout cette, moins cette politique-là, et ouais. En fait c'est très bien, et moi pendant les 6 mois qui me restaient de scolarité, libre, mais j'en ai profité pas pour faire des conneries, quoi. J'allais faire tous les cours de théâtre parce que je voulais aussi faire du théâtre. Je savais pas très bien quoi faire, donc j'allais en candidat libre faire tous des cours de dessin, cours de théâtre. Je cherchais ma voie, quoi, et ouais. C'est super. Et puis finalement, je l'ai trouvé.
Ouais.
En fait, c'est bien.
Et tes parents, eux, ils faisaient quoi comme métier?
Alors, mon père, il travaillait dans une entreprise, un syndicat professionnel. Et ma mère était orthoptiste.
Ok.
Orthoptiste, elle rééducation des vieux ouais. Pour l'éducation nationale. Elle travaillait pour la MGEN, Mutuelle d'éducation nationale.
D'accord.
Voilà. Donc elle travaillait quand même, ma mère.
Ouais, bah oui, ouais, c'est clair, ouais.
Ouais.
Et puis bon, c'est des études de médecine, donc c'est quand même des études.
Non, c'est paramédical.
C'est un peu plus léger, ouais. D'accord.
Ouais, c'est plus léger.
Ouais.
Mais non, elle était très contente de travailler, ma mère.
Ouais.
Non, on avait le droit quand même de travailler en étant une fille quand même. On n'était pas là bonne à marier et puis après non.
Tu te cases et puis après c'est fait quoi. C'est fait. Et donc après donc t'as intégré Mango, donc t'as évolué donc comme tu disais en tant que directrice de publication. Donc là ton spectre a vraiment évolué parce que de la créa t'es passé sur le management des auteurs entre guillemets si je peux résumer. Comment ça s'est passé ce virage?
Ce virage s'est passé au moment du en fait Mango était une les éditions Mango étaient une maison indépendante.
Ouais.
Hein, dirigé par un monsieur qui s'appelait Hugues de Saint-Vincent, qui maintenant n'est plus là. J'en parle souvent parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté et dans l'édition et dans ma vie et personnelle et professionnelle. Donc,
d'accord. Voilà.
Donc, je le cite. Et une fois que Mango a été vendu, tout le monde, beaucoup de gens sont partis et moi, je suis restée. Et à cette époque, j'étais effectivement... séparé, là, je pouvais pas m'amuser trop à partir. Donc, j'ai accepté de faire partie du rachat.
J'ai
parti
les
murs, allez, hop, elle part avec. Donc, voilà. Et beaucoup de gens étaient partis. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, donc, j'étais directrice artistique chez Mango. Mango faisait beaucoup de publications adultes, enfants, avait aussi d'autres maisons satellites indépendante de littérature générale, donc il y avait beaucoup de choses à gérer au niveau de la direction artistique, et donc je gérais ça. Et ensuite, quand ça s'est vendu, moi je me suis vraiment mise vraiment sur la partie jeunesse, et à ce moment-là, j'avais un peu la double casquette puisque je faisais partie de la direction artistique, mais aussi de l'édito parce qu'il n'y avait plus personne à l'édito. Donc il y a un moment, il fallait bien gérer un peu tout. Donc petit à petit, j'avais un peu les deux casquettes et après j'ai revêtu que la casquette, c'est que la partie éditoriale sur la partie jeunesse.
Et ça t'a plu
depuis 10 ans? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Après, ma formation effectivement n'est pas forcément littéraire, donc sur la partie Mango jeunesse, on faisait un peu de littérature ado, mais pas beaucoup. C'était surtout vraiment la petite enfance.
Ouais. C'est surtout des guides
très liés à l'image, non, des albums.
Non. D'accord,
albums
ok.
Pour enfants, des livres pratiques.
Ok.
On va dire créatifs, pratiques. Toujours okay. Très liés à l'art, en fait. C'est du pratique, mais pas trop théorique.
Ok.
Toujours laisser l'enfant libre aussi au maximum de ses découvertes.
Et bon. Toi, à cette époque-là, enfin à l'époque où toi tu n'étais du coup que sur la partie direction artistique, c'est quelque chose qui te faisait de l'œil, où tu te disais pourquoi pas moi ou pas nécessairement.
Pourquoi pas moi, de quoi, de faire
de faire cette partie édito, enfin de basculer vers l'édito.
Non, moi j'étais très bien, mais c'était très lié en même temps sur la partie jeunesse, dans l'édition jeunesse, en fait les deux sont souvent très liés, quoi.
D'accord.
Éditorial, ouais. et artistique, puisque souvent ben voilà, c'est des livres avec de l'image, où l'image et texte ont vraiment à 50-50.
D'accord.
Donc les deux sont liés. Donc en général, dans une maison d'édition jeunesse, un éditeur et une direction artistique marchent main dans la main, quoi.
Ouais.
C'est très très lié.
Donc du coup,
le passage de l'un à l'autre, moi je travaillais déjà avec.
Ouais, c'était assez cohérent.
Certains auteurs sont aussi illustrateurs dans la jeunesse. Hein. Il y a
d'accord.
Des auteurs illustrateurs, ouais. Par exemple. Donc vraiment, on est dans un milieu qui est très voilà, les deux sont très très liés.
Ok.
Donc ça n'a pas posé trop de problèmes, sauf que c'est plus sympa d'être vraiment que sur la partie artistique, que d'être sur la partie éditoriale. Parce que sur la partie éditoriale, on doit gérer des auteurs, on doit gérer des contrats, mais quelle galère, les contrats d'auteurs.
Ah, c'est compliqué, ouais, ouais.
Ouais, c'est pas drôle, quoi. Voilà, moi, toute la partie juridique, pourtant, j'étais partie pour une formation.
Ouais.
Franchement, c'était pas mon truc, ça s'est révélé encore plus tardivement.
Ouais.
Ah, la partie contrat, mais c'est compliqué. C'est intéressant, hein, mais voilà, c'est pas le plus drôle.
Ouais.
Et puis, c'était un peu, oui, frustrant parce que j'aimais bien toujours mais je travaillais main dans la main chez Mango, je travaillais main dans la main avec mon acolyte de toujours, que j'ai suivi pendant, on a travaillé ensemble pendant presque 20 ans, parce qu'elle est rentrée pratiquement en même temps que moi chez Mango, donc, voilà. Donc, je travaillais main dans la main avec mon acolyte, graphiste et directrice artistique après.
D'accord.
Chez Mango, donc,
voilà. Et,
petite famille.
Ouais, oui, c'est une maison d'édition très à taille humaine, bienveillante.
Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ouais.
Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit en fait je vais pas rester chez Mango et faire ce métier.
Alors le tournant un peu. c'est-à-dire qu'au bout d'un moment. Ça faisait 20 ans, hein, 20 ans que je... C'était 20 ans, voire 21 ans chez Mango. L'avantage, c'est que j'ai eu l'occasion d'évoluer dans cette petite maison, puisque voilà, il s'est passé des choses. En plus, il y a eu un rachat. Après, il y a eu des changements en direction éditoriale. Et hop, et hop, et hop, on changeait. Donc, ça, c'était pas forcément le plus drôle. Ça m'a peut-être aussi un peu usé. Et puis, il y a un moment où, voilà, j'avais plus... C'est un métier passionnant parce qu'on n'arrête pas d'abord de rencontrer des gens. C'est un métier de rencontre. Pour moi, c'est un métier de rencontre. Donc, illustrateur, auteur. On propose des projets et puis malheureusement, et ça c'est pas lié qu'à Mango, c'est lié à l'édition en ce moment. Beaucoup, c'est qu'en fait on n'arrête pas de produire un peu trop. Hein, des livres qui malheureusement au bout d'un moment s'ils n'ont pas eu l'écho suffisant dans les librairies on les abandonne. Donc 20 ans d'édition, enfin 20 ans dans la même boîte sans, sûrement avec heureusement il y a eu beaucoup de changements qui m'ont permis effectivement d'évoluer, de pas avoir l'impression de faire la même chose.
Ouais.
Mais voilà, mon édition en ce moment va bien, hein, surtout l'édition jeunesse va bien, mais bon.
Ouais.
On est toujours obligé de sortir des livres un peu trop à mon goût et puis voilà, faut se renouveler tout le temps.
Ouais.
C'est un métier passionnant. Moi, je l'ai fait avec passion, c'est-à-dire aussi avec l'envie, l'excitation. Et au bout d'un moment, si cette excitation tombe un peu, pour entraîner des gens dans cette aventure, il faut être vraiment à 100%.
Ouais.
Et je n'étais plus. Sans doute usé, donc du coup, moi, je peux pas faire les choses à moitié, donc ça m'a fait un peu paniquer, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, j'ai 60 ans, et effectivement, la retraite, c'est pour bientôt, mais
tout le monde. C'est censé être quand pour toi?
62 ans.
D'accord.
Tout le monde me disait, bah, attends, t'es bientôt à la retraite. Et quand j'ai entendu ça, je me disais moi-même vivement à la retraite, je me suis dit, alors là, ça va pas, ça ne te ressemble pas, vivement la retraite. C'est comme si on disait, vivement la tombe, hein, un peu pareil. Et du coup, là, j'ai eu un petit moment de panique et je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, il faut que je trouve, quelque chose. Il faut que j'arrête, il faut que je rebondisse, il faut que je fasse autre chose en tant qu'active.
Ouais.
Voilà. Ne pas attendre la retraite pour justement m'engager dans une autre voie. Parce que là, c'est une voie un peu de, pour moi, de garage. Tu vois, après la retraite, faire quelque chose. Oui, plein de gens font des choses de manière ou bénévole, etc. Non, non, moi, je veux continuer à être active. Je prendrai sans doute ma retraite à 62 ans, dans 2 ans. Mais en attendant, si ça se trouve, je la prendrai pas. Si mon activité peut me permettre là, ma nouvelle activité de vivre sans prendre ma retraite, je ne prendrai pas ma retraite tout de suite.
Ouais.
Donc voilà, donc c'était un peu panique à bord, donc j'ai cherché. Alors voilà, j'ai cherché, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Alors j'ai commencé à me lancer un peu dans la poterie. En fait, c'est drôle, en te racontant ça, je me rends compte que je fais la même chose que j'ai fait à 17 ans.
Ouais.
18 ans. Donc j'arrête. Et ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Alors hop, je vais faire du théâtre. Non, je vais faire du.
Sachant que t'es resté en poste, là t'es resté en poste.
Ah oui, je suis resté en poste. Oui, oui, là, j'ai pas bougé. Voilà. Quand même, là, il faut que j'avais plus 17 ans là. Hein, ouais. Donc là, faut pas déconner. Donc non, je cherchais. Donc effectivement, j'ai fait un stage de. C'est un peu effectivement ado retardé, mais bon, c'est comme ça. Donc je fais de la poterie. Et... Non, ça va pas. Et puis le vitrail était une activité effectivement qui m'a ça m'a toujours attirée, voilà.
Ouais.
Je connaissais une vieille dame qui faisait ça, je l'admirais beaucoup. Mais c'est pas pour autant que j'allais faire tous les week-ends aller voir toutes les cathédrales et visiter tous les vitraux, hein, pas du tout. Et du coup, j'ai fait effectivement pareil une petite journée d'initiation vitrail. Et là, ping ping, la petite lumière s'est éclairée, vraiment ça a fait
signe
dans ma tête. Les antennes sont ressorties. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est génial. Et en plus, effectivement, en l'analysant, ça me correspond assez bien, puisqu'il y a un côté très graphique dans le vitrail aussi. Hein, le jeu du plomb et tout ça crée un univers graphique. La couleur, enfin voilà. J'étais dans mon élément et je me suis dit, ben voilà, je veux faire ça. Et ben, pour faire ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? On casse sa tirelire et son compte de formation, là.
Ouais.
Et on commence à y aller, à aller faire un stage. C'est ce que j'ai fait pendant un an et demi.
Parce que du coup, comment ça s'est passé par rapport à Mango?
Je faisais ça, je prenais des jours de vacances. Je prenais ça le samedi. Voilà. Mais je commençais à dire que j'ai commencé à émettre le désir de partir.
Oui. OK. Donc tu leur as dit, voilà, j'ai ça qui.
J'aurais dit, voilà. Voilà, j'ai ça, j'aimerais partir et mais me laissez pas partir. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Et oui, quand tu leur as dit ça, ils t'ont dit non, tu peux pas, comment ça s'est
passé? Non, mais ils m'ont dit, non, mais nous, on est contents de toi, arrête. Non, mais ma directrice, ma responsable, la directrice éditoriale est géniale parce qu'elle m'a vraiment accompagnée, elle m'a dit, attends, mais réfléchis, nous, on veut, enfin, voilà, pas vraiment. Elle a été extra avec moi, donc j'ai rebondi. J'ai encore attendu 6 mois et puis 6 mois après le confinement, en fait, là je me suis lancée parce que c'était pas possible. Le confinement m'a en plus effectivement, oui, complètement décidé qu'il fallait que j'arrête.
Ouais.
Déjà, c'est le confinement, travailler en être en télétravail, ça a été pour moi assez difficile.
Ouais. Voilà. Parce que du coup, tu vis toute seule aujourd'hui?
Non, j'ai un compagnon.
D'accord.
Mais
tes filles, elles sont grandes?
Oui, mes filles, elles sont grandes, oui.
Ouais.
Mais c'était surtout d'être séparée de mes collègues.
Ouais.
Parce que déjà, c'est important pour moi. C'était important. Ce métier-là aussi, un métier de contact. Donc, on voit des gens dans les contacts aussi, les illustrateurs, les auteurs, on les voit pas forcément. Mais si en plus, on n'a plus d'échanges avec des gens pour partager des chances même physiques se voir que par Zoom, moi je pense que c'est parce que j'étais déjà un peu usée.
Ouais.
Voilà, donc j'étais pas très.
Ça a été la goutte d'eau.
Voilà, j'avais en plus besoin de effectivement de voir du monde parce que là maintenant je fais un métier plutôt solitaire, hein, je suis toute seule indépendante, donc Et je l'ai été, mais voilà. Donc ça a été un petit peu la goutte qui m'a décidé, en tous les cas, à relancer la demande de partir. Et donc je suis partie en septembre.
D'accord. Et donc pendant un an et demi, donc tu prenais des jours, tu te
voilà.
formais.
Voilà. Des jours. J'avais mon compte personnel de formation, mais c'est vraiment un truc génial. Je le crée. Ouais. Je profitais de votre compte personnel de formation. Ouais. C'est génial. J'ai eu 300 heures de formation.
Ouais.
Et je crois que tous les domaines sont à peu près voilà, on peut faire ce qu'on veut avec ce compte-là. À partir du moment où on fait du vitrail à la place de l'édition, c'est sûr qu'on le fait pas pendant son temps de travail et que le patron n'est pas forcément d'accord.
Oui, il va pas être d'accord pour que
non.
tu le fasses pendant ton temps de travail.
Et je le comprends.
C'est cohérent. Oui.
C'est cohérent. Voilà, ouais. Faut pas non plus exagérer. Mais bon, je pouvais y aller samedi, je prenais des journées.
Ouais.
C'est génial et là je me suis éclatée. Vraiment, j'étais très très contente. Ça m'a vraiment, je me suis sentie mais c'est marrant, bah naître une vocation, c'est un peu ça.
Ouais.
Et du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion pour me dire de me lancer là-dedans tout de suite pendant que j'étais encore active.
Ouais. Comment ton entourage, ils ont réagi?
Ben, mon entourage a réagi de manière différente. Certaines personnes, effectivement, disaient, mais attends la retraite. Il y a 2 ans de la retraite, attends la retraite avant de te lancer là-dedans. Voilà. C'est la première réaction. La réaction raisonnable. Et étonnamment, certaines personnes auxquelles je m'attendais pas, hein, mon frère qui est plutôt très paternaliste, qui m'a dit mais vas-y, mais fonce, peut-être que voilà, ouais. C'est drôle, comme quoi, alors que on pourrait s'attendre à l'inverse côté familial qui disent non, attends, sois raisonnable. Et voilà. Donc du coup, bah je l'ai fait. J'ai fait ça de manière assez solitaire. J'en ai pas beaucoup parlé pendant toute cette démarche. Même mon compagnon n'était pas tellement au courant.
D'accord.
Oui, j'essaie de toute la partie négociation avec mon employeur, etc. Tout ça était très voilà en solitaire.
Pourquoi?
Pour pas me laisser influencer.
Ouais.
Pour dans ces cas-là, j'ai besoin voilà, je peux pas trop partager. J'ai peur qu'on m'emmène dans d'autres horizons et dire ah ben non tu te débrouilles mal, tu défends pas très bien, j'ai pas forcément fallait que je sois j'en parlais très peu.
D'accord.
Très peu. Donc voilà, ça se passait entre eux et moi et en même temps c'est normal finalement.
Ouais. Et ton entourage le respecte.
On se laisse influencer facilement quoi.
Ouais. Et
ceux qui disent c'était pas raisonnable, attends.
Ouais.
Voilà, forcément, il y a aussi une petite négociation qui se fait. Alors bon, pareil, là, on dit mais non, tu te fais avoir. Alors ça, je supporte pas d'entendre ça. Voilà, moi, j'étais très bien avec mon employeur. Je m'entendais super bien avec eux. C'était mon affaire à moi. C'est moi qui souhaitais partir. Eux ne sont pas du tout en cause, du tout. Au contraire, ils m'ont vraiment aidé et épaulé pour que je reste. Donc voilà, c'était à moi de me débrouiller avec ça.
Ouais. Normal. Donc depuis, donc quand tu t'es lancée, t'avais pas encore de carnet de commandes ou une idée précise de ce que tu voulais faire,
non.
À part du vitrail évidemment.
Oui. À part du vitrail, donc déjà il fallait déjà que je découvre un peu ce métier qui est un métier complexe. Hein. C'est un vrai métier. Hein. C'est pas du loisir créatif. Hein.
Ouais.
C'est beaucoup plus complet que ça, quoi. Il y a la création,
effectivement.
Il y a une technique. Il y a plusieurs techniques d'ailleurs, parce que le vitrail peut être au plomb, il peut être en la méthode Tiffany qui est avec du cuivre, donc il y a déjà des méthodes différentes. Il y a un matériau, le verre, c'est quand même un matériau assez impressionnant.
Ouais.
Après il y a le montage, après il faut pouvoir faire, si on fait des grandes œuvres, enfin, des grandes réalisations, bah faut pouvoir aller les poser. Donc ça c'est encore une partie que je maîtrise pas du tout. J'ai pas eu l'occasion de me former là-dessus.
D'accord.
Donc voilà. Donc pour le moment, j'ai qu'une petite formation qui m'a permis maintenant de me lancer moi-même toute seule. Donc je fais des petites choses de mon côté. Je suis un peu encore discrète. Moi, je me lance sur les réseaux sociaux.
Oui, t'as un compte Instagram. On mettra le lien dans le blog et je le relaierai sur Insta.
Merci. Je me lance. Mais là, je me force quand je fais mon quand je poste, j'ai l'impression tout d'un coup de faire, tu sais, comme si les trucs partaient, tu sais, dans l'inconnu, c'est très étonnant. faut se mettre en avant. Et j'ai perdu l'habitude, je ne suis jamais tellement mise en avant, mais le métier que je faisais dans l'édition ne me mettait pas en avant. Je mettais en avant les autres.
Ouais, t'étais une fois, c'est les personnes de l'ombre qui sont dans la maison d'édition.
Exactement. Et on travaille avec eux, on les porte, on les amène jusqu'à ce qu'un livre sorte. Nous, on n'existe pas vraiment.
Ouais.
Et là, là, je suis obligée à tout petit peu de me mettre en avant. Et c'est pas mon fort. Mais, mais c'est pas mal. J'avoue que pour ça, Instagram, je fais pas beaucoup dessus, mais c'est pas mal. Parce que c'est visuel. Et donc, ce que je fais est visuel.
Ah bah oui.
Donc, c'est facile. Tant que je mets des visuels, moi, je suis contente. Voilà.
Ouais.
Donc, pas trop de blabla, mais plutôt du visuel.
Et les vitraux, bon, comme tu disais, bon, spontanément, quand on pense à vitrail, on pense aux cathédrales. Mais c'est pas, enfin, là, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est quoi? C'est des choses décoratives? C'est.
Bah, pour le moment, c'est pas mal de petites choses décoratives, effectivement.
Ouais.
Des petits formats. Et je vais me lancer bientôt dans des formats un petit peu plus grands. Mais pour de l'intérieur, pas de vitraux d'extérieur ni de cathédrale.
Ok, pas encore.
J'ai pas de comment, mais je pense que je ferai pas.
Non,
parce que derrière tout ça, enfin le vitrail, il y a ça, et puis après il faut aller aussi sur place,
les poser.
J'ai le vertige. Et la pose. Alors heureusement, j'ai la chance, c'est que j'ai un compagnon qui lui est très physique et voilà, donc lui il m'aide pour poser, parce que là on a posé un vitrail ce week-end chez une amie qui m'avait commandé, et heureusement qu'il est là pour m'aider, parce que moi je suis pas très très bonne sur cette partie-là.
D'accord.
Donc, là-dessus on se complète.
Ok.
Et il m'aide, donc ça c'est bien. Donc, je ne sais pas encore très bien aujourd'hui tout ce que je vais en faire. Je me cherche, donc c'est génial. Ouais. Je me suis donné un an.
D'accord.
J'ai arrêté Mango en septembre.
Ouais.
Jusqu'à septembre prochain, j'ai un an pour me former.
Ok.
Donc, je me suis formée avec ma formation. J'ai fini. Ouais. Je vais sans doute en prendre une autre. Et pour le moment, j'attends de voir exactement ce qui me manque, ce que je voudrais effectivement approfondir, affiner.
Ok.
Alors, j'ai plein de choses à apprendre. De toute manière, malheureusement, il prend tard, donc il va falloir.
Il n'est jamais trop tard.
Non, il n'est jamais trop tard. Non, mais ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai, je revendique ça. Alors là, à 60 ans, on n'est pas fini, hein. Bien au contraire. On a justement du temps. C'est génial. C'est une période géniale. C'est, à 60 ans, mes filles, elles sont grandes, elles sont autonomes. Bon, ça se débrouille bon an, mal an, mais voilà. J'ai pas encore de petits-enfants. J'espère que j'en aurai. Mais donc, pour le moment, j'ai même pas cette charge-là. Donc, en fait, c'est quoi? J'ai moi.
Ouais.
Occupée. J'ai tout mon temps, quoi.
Ouais.
C'est génial.
Ouais.
C'est vraiment une période, en fait. Franchement, la soixantaine, c'est super. Si on est en forme, franchement, c'est bien.
Et quand dans ce changement de vie, ça a été quoi tes grandes questions, tes grandes peurs?
Mes peurs, c'est pas tant de changer de vie. C'est effectivement ma peur, ça a été de me dire, j'attends la retraite. J'en ai parlé tout à l'heure.
Mmh.
Et là, c'était le premier pied dans la tombe.
Ouais.
C'est un peu fort quand même en raccourci, mais c'est pas loin. La retraite, pour moi, il y a un truc, c'est pas, pourtant, ça doit être chouette, les gens apprécient la retraite, mais la retraite sans rien faire, enfin, ça va pas. Donc, ma peur, ça a été ça. Et voilà. Donc maintenant, j'ai plus peur, puisque je sais que je peux, tant que je peux faire cette activité, j'aimerais vraiment que ça soit une activité, voilà, que je puisse réaliser des choses, en vivre aussi. Je pourrais aussi améliorer ma retraite avec ça, c'est le but. Hein.
Ouais.
Voilà, je veux en vivre. Je veux pas juste faire des petites œuvres comme ça pour mettre dans ma salle de bain ou sur ma cheminée.
Ouais.
C'est pas le but du tout.
Ouais.
Je veux vraiment avoir des commandes et tout ça. Donc là, en ce moment, j'ai des commandes.
Super, bravo.
Commandes, donc, ouais. Que je vais honorer, je vais essayer d'honorer. Donc, et voilà, je vais même faire un stage de dalles de verre.
C'est quoi les dalles de verre?
Mars. Donc en fait, les dalles de verre, donc c'est des petits pavés de verre. Okay. Donc il y a pas mal de vitraux qui sont aussi faits avec des gros pavés. Et en fait, ces pavés, on les taille comme de la pierre.
D'accord.
Donc ils sont taillés.
Ouais.
Et ensuite, ils sont assemblés de façon mosaïque.
OK.
Et avec du béton, c'est le béton ou de la résine qui fait les joints.
D'accord.
Et l'effet est assez surprenant parce qu'en fait, on peut les tailler. Donc, comme on taille les pavés suivant comment on les taille, en fait, on arrive à choper différemment la lumière. Donc, c'est un effet très, très, je sais pas, je te dirai plus
esthétique.
La prochaine fois.
Ouais, avec plaisir.
Parce que j'attends mon stage pour pouvoir, bon, ça, c'est un petit peu la petite cerise sur le gâteau. Hein. C'est un petit bonbon pour, si on n'est pas confiné pour fin mars, voilà, d'aller prendre l'air un peu en Vendée avec une dame qui fait ça et ça sera sympa.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Marion de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Ouh là là, je sais pas. On dirait t'es vieille toi. Tu sais, les petits, ils disent ça, les petits de 6 ans. Les gens comme moi, oh t'es vieille toi. Et ben voilà, elle dirait peut-être t'es vieille toi, et je dirais oui, je suis vieille, mais bon, ça va. La vie est belle. Je sais pas si elle serait fière, j'en sais rien. Mais voilà, je sais pas ce qu'elle dirait. Exactement.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi, du coup, à toi, tes renoncements?
Quand on fait des choix, il y a des renoncements?
Ouais.
Alors, là, le choix, si je prends le dernier choix que je viens de faire, le renoncement, il est financier.
Ouais.
Il est économique. Voilà. C'est sûr que là, financièrement, c'est beaucoup plus serré.
Ouais.
Mais c'est pas grave. C'est un choix.
Ouais.
En fait, les choix, on les fait. On a toujours les choix. Et ça, c'est très, très important. Toute sa vie, en fait, on a le choix. De faire les choses. On dit, mais non, j'ai pas le choix. Si, on a le choix. Dans toutes les circonstances, pratiquement. Hein. Après, on fait des choix. Moi, à un moment, j'ai fait le choix, effectivement, de me dire, non, tu quittes pas ton boulot, même si j'avais envie de partir avec toute la bande qui avait vendu la boîte et de partir avec eux dans cette aventure ou essayer autre chose. Hein. Là, non, j'ai fait le choix. C'est vrai, je n'avais pas le choix. J'ai fait ce choix-là parce que financièrement, il fallait que j'assure. Donc, c'était pas le moment de partir et d'essayer autre chose. Mais c'est un choix. Donc effectivement, je fais ce choix.
Ouais.
Mais c'est pas grave, je suis toute seule avec mon compagnon, on a de quoi vivre. Maintenant, j'habite à Aubervilliers, c'est moins cher. Les enfants se débrouillent, il faut qu'ils se débrouillent, et puis voilà. Donc, c'est pas très grave, en fait, hein.
Ouais.
C'est un choix. Enfin, c'est un choix. D'autres le feraient pas. Je préférerais effectivement pouvoir continuer à partir en vacances et explorer le monde ou, ça tombe bien en ce moment. Donc finalement, mon choix, je ne regrette pas parce que ça tombe bien. Même ceux qui ont beaucoup de sous en ce moment, ils ne peuvent même pas le dépenser. Dommage pour eux. Donc voilà. Donc peut-être le renoncement, c'est ça.
Ouais. C'est quoi les plus grandes difficultés? Ouais, vas-y.
Mais après, si, j'ai quand même renoncé à un métier qui me tenait à cœur quand même.
Ouais.
Même si j'étais arrivée au bout d'un cycle, c'est vrai que. Mais j'ai gardé de très beaux contacts et voilà, je suis toujours en relation et grâce aussi aux réseaux sociaux et tout ça, avec tous les illustrateurs, les auteurs avec qui j'ai pu travailler, ça c'est génial.
Ouais.
C'est super.
Ouais, ça te manque parfois?
Oui, ça peut me manquer, mais j'ai trouvé une parade. C'est-à-dire que je vais, puisque je fais aussi encore un métier lié à l'image.
Ouais.
J'aimerais travailler avec certaines personnes.
Faire des collaborations. Ouais, génial.
Et qu'on puisse faire, je vais leur proposer de passer leurs œuvres ou d'essayer de travailler avec eux et de faire des œuvres en verre.
Mais bon, trop bien.
Ça, je rêve un peu. Mais,
pourquoi voilà. Tu rêves?
Bon, parce que je sais pas. Je rêve parce que j'ose pas encore trop le proposer.
D'accord.
Bientôt, je pourrais le proposer.
Ok.
Mais, ça serait bien.
Pourquoi tu oses pas le proposer?
Parce que j'attends d'être un peu plus sûre de moi là. Je suis encore en apprentissage. Voilà. Je suis assez studieuse, hein, comme. Donc j'aime bien être sûre de moi, un peu plus sûre de moi, même si je n'ai jamais très sûre de moi, pour pouvoir faire des propositions.
Ouais. Voilà. Après, si tu me permets, tu dis que tu n'es pas sûre de toi, mais bon, tu as quand même dit, allez, j'ai 60 ans, j'attends pas la retraite. Voilà. Là, t'étais sûre de toi.
Là-dessus, je suis assez sûre de moi. Oui.
Ouais.
Je suis volontaire, mais je doute toujours sur ce que je peux proposer quand ça touche la création, etc., là j'ai des doutes.
Ouais.
Mais pour moi, non, là, il n'y avait aucun doute, en tous les cas. Ouais. Rien n'aurait. Non, je ne pouvais pas m'arrêter.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser là pour du coup ce dernier changement de vie et comment tu l'as géré?
La plus grande difficulté?
Ouais.
Je sais pas, c'est la plus grosse difficulté. J'ai pas eu beaucoup de difficultés. La plus grosse difficulté, c'est effectivement la décision finale de partir.
Ouais.
Partir, quitter effectivement un bureau, des collègues, voilà, une ambiance comme ça. C'est un changement. Là, c'est un vrai changement. Ça fait 20 ans quand même.
Ouais.
Même si les collègues ont changé, ça fait 20 ans que je faisais ce métier. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, ne plus avoir ce contact-là, ça a été un peu à vide.
Ouais.
Voilà. Mais ça a été vite. Alors il se trouve que vu la situation actuelle,
ouais.
Je pense que voilà le vide était de toute manière était déjà là quoi. Il y avait vraiment une distance sociale là vraiment importante et qui moi me pesait. Donc finalement ça a peut-être un peu aidé ça m'a aidé en tous les cas. Je pense que la situation sanitaire m'a aidé à franchir le pas. Oui.
Ouais.
Oui.
De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
Waouh, c'est des questions difficiles les réponses. Ah non, je suis fière je suis fière de quoi? Je suis fière de mes enfants, je suis fière je suis fière, mais je suis assez fière de moi aussi, finalement. Je suis assez fière de mon parcours.
Ouais.
J'ai eu la chance. J'ai eu plein de chances, plein de rencontres. Et j'en suis, en tous les cas, heureuse. Je sais pas si j'en suis fière, mais j'en suis heureuse. Voilà.
Ouais.
Pour regarder tout ça avec beaucoup de bonheur. Pas du tout d'amertume, beaucoup de bonheur. Même s'il y a eu des changements, même s'il y a eu des choses, beaucoup de bonheur. Donc,
c'est
ce
quoi?
Bonheur-là, j'en suis fière.
Bah ouais, tu peux, ouais. Ça se provoque le bonheur.
Il y a eu des moments difficiles, hein. Il y a eu des moments super durs, hein.
C'était quoi ces moments super durs?
Pétage de bas avec le travail. C'est le travail qui est dur. Enfin, il y a eu des moments durs dans ma vie personnelle. Mon divorce a été très dur. Ça, c'est sûr.
Ouais.
Le divorce a été très dur. Et, la séparation, puisque le divorce, c'est une formalité, la séparation, c'est très
dur. Ça dépend pour quel couple, hein. Je connais des personnes pour qui le divorce, c'est loin d'être une formalité où ça dure.
Oui. Non, pour moi, le divorce, non, c'est pas ça. C'est vraiment le moment de la séparation où ça a été dur.
Ouais.
Et professionnellement, il y a eu des moments quand même très difficiles.
Ça a été quoi, ces moments?
Bah, des moments très difficiles. Il y a eu des changements, au moment déjà de la vente de Mango, donc qui a été racheté par le groupe. Là, ça a été difficile. Et puis après, il y a eu beaucoup de changements de direction et des directions compliquées. J'ai eu du mal à, voilà, j'étais perdue et j'étais pas bien.
Ouais.
Donc, on est un peu stressé, quoi.
Ouais.
Mais je pense que dans toute vie professionnelle, il y a des moments comme ça. On les passe. Et puis j'ai passé. Je me suis aussi battue pour.
Ouais.
Voilà.
Oui, finalement, c'est toi qui es resté, c'est eux qui sont passés.
Oui, exactement. Moi, je suis restée, ils sont passés. T'as tout à fait raison. Et le jour où j'ai trouvé quelqu'un qui était une direction éditoriale qui me convenait, c'est moi qui l'ai laissé tomber. Voilà, comme quoi.
Ouais.
Donc, voilà.
C'est quoi tes plus grandes peurs, du coup, là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite?
C'est de pas pouvoir je voudrais que le temps s'allonge là. Je commence à avoir un peu peur du temps qui passe.
Ouais.
Je fais quand même maintenant un métier qui est assez physique. Je voudrais pouvoir vraiment le faire longtemps.
Ouais.
Je pense qu'on peut le faire quand même longtemps, mais c'est quand même physique. Hein. Voilà. Donc.
On imagine pas que c'est un métier physique.
Ah si.
Ouais. Ah, de l'extérieur, après, c'est un métier qu'on connaît quand même très peu, hein, mais.
Alors, tout dépend ce qu'on travaille. C'est sûr que si on travaille des petites des petites pièces petites, mais même la coupe de verre, c'est physique. Hein.
D'accord.
Moi, je travaille debout toute la journée.
Ouais.
Debout tout le temps. Et ça, j'adore être debout. J'ai plus de douleurs.
Ouais.
Les douleurs de l'ordinateur.
Dans le haut des épaules.
Le haut des épaules, le bras coincé, etc. Alors, le bras, il fait mal parce que la coupe de verre, ça fait quand même marcher le bras et l'épaule. Mais alors, les douleurs de dos, c'est terminé.
Ouais. Ah, c'est fou. Ouais.
Là-dessus, je suis vraiment physiquement, je suis plus en forme aujourd'hui qu'il y a un an.
Ouais. Après, il y a peut-être aussi le côté psychosomatique.
Tout à fait. C'est sûr que... Mais la position debout me va très bien. Je peux rester debout toute la journée à mon atelier en train de... Ça me va. Donc voilà, ma peur, c'est effectivement de me dire que physiquement, je pourrais m'en trouver à pouvoir faire ce que je fais, quoi.
Ouais.
Voilà, donc j'aimerais pouvoir continuer à faire ça longtemps.
Ouais. On te le souhaite, ça.
Oui. Ouais. Mais en même temps, je peux le faire. La dame que j'ai... Bon, je faisais référence tout à l'heure à une dame, elle faisait ça à 80, 90 ans, elle travaillait encore de petites pièces en vitrail.
D'accord.
Et d'ailleurs, tes enfants m'ont donné tous ces petits bouts de verre et tout, je suis trop contente. Ça m'a permis de démarrer, c'est trop mignon. Ouais. Une espèce de passation comme ça. Il restait pas grand chose, mais ce qu'ils m'ont donné, ça m'a été très, très utile et j'étais très touchée.
Ouais. Et là aujourd'hui, tu dis que tu as un atelier. Il est où ton atelier?
Alors, donc moi j'habite à Aubervilliers. Ouais. Aubervilliers City.
Ça change de Paris 7e.
Ça change de Paris 7e. Bon, après Paris 7e, j'étais Paris 14e. Enfin, j'ai vécu 20 ans, 30 ans en 14e. C'est pas mal aussi.
D'accord. Ouais.
Je passais carrément nord et banlieue nord. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Alors il se trouve que mon compagnon. Je pourrais dire mon mari, parce qu'on devait se marier au mois de mai l'année dernière.
D'accord.
Tout a été annulé.
Ouais.
Alors, nous ne sommes pas encore mariés, mais bon, on va dire mon mari.
Ton fiancé?
Mon fiancé. Alors, ouais. Bon, voilà. Très bien. Trop chic. Mon fiancé, lui, est artisan, designer, et il a un atelier à Aubervilliers.
D'accord.
Du coup, à 300 mètres dans l'appartement où j'habite maintenant depuis 3 ans. Et donc, du coup, il m'a accueilli une petite place dans son antre. Ça n'a pas été facile, hein.
Ouais.
Parce que c'était dur pour lui, parce que bon, lui, il travaille. Un atelier, c'est vraiment un endroit aussi, je me rends compte, où on a son espace, c'est là où on crée, on fait et.
On est dans sa bulle.
Intime. Ouais. Très intime. Et là, je suis venue un petit peu dans son intimité.
Ouais.
Donc, je me suis montrée très discrète. J'essaye de l'être, de me retirer aussi dans les moments où je sens que voilà où je suis plus au calme pour avancer.
Ouais.
Mais là j'ai une petite place, donc une belle table, un bel atelier, je peux mettre mes morceaux de verre et je travaille là, donc c'est cool.
Ouais, donc, super.
Pendant le confinement, je pouvais y aller, donc c'est sympa, voilà.
Ouais.
Pour le moment je suis là, mais ça va pas durer trop longtemps parce qu'après on a le projet de partir en Normandie.
Ah, trop bien.
Voilà. Retrouver les galets.
Ouais, super. Ouais.
Et on attend un petit peu.
Et là, pour le mariage, du coup, vous avez recalé une date?
Non.
Non.
Non, mais il va falloir.
Ouais.
Non, mais c'est dommage, il y avait au mois de mai l'année dernière, le 9 mai, justement en Normandie, je devais me marier, fêter mes 60 ans, parce que j'ai mes 60 ans aussi pendant le confinement. Enfin bon, c'était tout était annulé. C'est bizarre quand même. Enfin non, c'est pas bizarre. Ça tombait comme ça.
Ouais.
Il y a des choses plus graves que ça d'ailleurs. Et donc pas de fête. Donc je faisais une fête pour mes 60 ans et une fête pour mon mariage aussi.
Trop bien.
C'est quand même.
Bah ouais, c'est clair.
Et ben non, et pas de fête.
Ouais.
Donc du coup, je sais plus comment aborder les
ah, ouais.
Juste pour se marier avec bon, de toute manière c'est à la mairie, mais avec le masque et
pour être 5, c'est pas
très drôle.
Ouais.
Mais c'est ce qu'on va faire au bout d'un moment
parce qu'on
a envie de se marier, donc c'est bien. Donc, c'est rigolo.
C'est chouette. Ça fait combien de temps que c'est
chouette. Ça va faire alors c'est lui qui est très bon sur les dates, moi je suis nulle.
Ouais.
Donc on va dire 12 ans.
D'accord.
Quand même.
Ouais.
On peut se marier à 12 ans.
Bah ouais, c'est clair. Nous, on a attendu 15 ans avant de se marier.
Tu vois. Ouais. On avait les enfants.
Et je pense que presque la moitié des jours depuis un an, on s'est dit, mais mon Dieu, mais heureusement qu'on s'est marié. Nous, on s'est marié donc en 2019. Et on se dit, mais heureusement, enfin,
oui.
Ouais, heureusement, parce que sinon, voilà, on aurait dû l'annuler, décaler, et puis, je sais pas quand.
C'est pas pareil, quoi. Ouais. Oui, ouais. Je pense qu'on n'est pas prêt de faire la fête. Hein.
Non, pas encore tout de suite, ça.
Non.
Faut être patient.
Il y aurait eu le petit créneau de l'été, en fait, parce que nous, c'était au mois de mai. Si je l'avais décalé à l'été, on aurait pu passer entre
Il y en a qui ont…
Il y a eu des mariages.
Ouais.
Mais comme là, j'étais en plein dans mon départ de chez Mango, j'avais la tête totalement ailleurs. Mmh. Donc là, il fallait que je m'occupe de ça. C'était très important.
Ouais.
Donc voilà, c'est difficile de mener plusieurs… voilà. J'aime bien faire les choses. Voilà, donc il fallait déjà que je fasse ça. Et puis après…
Ouais, ça sera l'occasion donc, encore de…
Voilà.
Oui.
Oui.
Si tu croises quelqu'un qui voit qu'aujourd'hui t'es bien, t'es heureux, c'est dans ton atelier et qui te dit mais en fait tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que t'as envie de lui répondre?
Chance?
Ouais.
Oui, effectivement, il y a une part de chance, mais il y a une part de… Non, je dis, c'est pas que de la chance, c'est parce que j'en avais envie, parce que je l'ai suscité.
Ouais.
Non, oui, j'ai de la chance, ça c'est sûr, j'ai de la chance, mais… La chance, tout le monde a de la chance. Bah, tout le monde peut effectivement avoir de la chance. Non, vas-y. Je dirais vas-y. Ouais. J'ai une amie justement en ce moment que je pousse à faire ce dont elle a vraiment envie de faire, quoi.
Ouais. Faut qu'elle écoute pourquoi pas.
Quand elle me voit, oui, j'ai mis, si elle va m'entendre après, elle va dire, ah, pourquoi t'as parlé de moi? Je ne citerai pas son nom. Oui, elle a écouté elle a écouté. J'ai envoyé des liens et je la coach. La coach. Mais en tous les cas, voilà, je pense que bon, elle est un petit peu plus jeune que moi, mais pas tellement plus jeune. Mais voilà. Et la vie, en tous les cas, ne s'arrête pas à 50 ans, 60 ans non plus, quoi. Au contraire, elle redémarre même. Nouvelle vie, ouais.
Ouais, nouveau chapitre.
Un nouveau chapitre, ouais.
Ouais.
Avant le dernier chapitre.
Ou pas, sauf si on croit qu'après il se passe
des… ouais, mais bon, enfin voilà, il y a quand même… Donc c'est important en tous les cas, si on en a la possibilité, qu'on a des envies, faut surtout faire ce dont on a envie. De toute manière, à chaque moment de sa vie, ça c'est sûr.
Ouais.
Même quand il y a des moments difficiles, même au moment de séparation, choses comme ça, souvent on pense pas assez à soi. Alors là, je sais que avec du recul, si j'avais à revivre ça, heureusement, je ne revivrai pas une deuxième fois. Mais je pense que je ferais plus attention à moi.
Ouais. Voilà.
Je pense que quand on est dans cette période-là de séparation, les enfants, on pense beaucoup aux enfants, on pense beaucoup à plein de choses, mais pas assez à soi. Et du coup, c'est pas bon.
Mm.
C'est pas bon parce que finalement, les enfants seraient mieux si on était mieux.
De toute façon, on dit souvent que c'est des éponges.
Donc, il faudrait d'abord penser à soi. Mais c'est très, très difficile. Puis, on n'est pas habité. Puis, nous, les femmes, on est très… voilà. Première chose, on pense effectivement pas souvent à soi en premier abord. Donc voilà. Donc, là, en revanche… je pense qu'à mon âge, à 60 ans, on a le droit de penser à soi. Et c'est ce que j'ai fait. Là, franchement, je me suis mis moi-même égoïstement en avant. Quoi. J'ai pensé qu'à moi. En quittant ce que c'était, en faisant ce que je fais, je ne pense qu'à moi. Voilà.
Parce que c'était comment tu le vis rien.
Bien. Ah non, mais c'est vrai, je me fais plaisir. Quoi. Ah, c'est super.
C'est
vraiment plaisir. Oui.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que tu aimerais donner aujourd'hui?
Ben justement, penser à soi et se faire plaisir.
Ouais.
Oui. Je pense que c'est. On ne fait pas assez.
Ouais.
Beaucoup de femmes ne font pas assez. Toujours. Pense aux autres. Mais il faut toujours penser aux autres, tu vois ça. Mais penser à soi dans le bon sens du terme. Hein,
Ouais, oui, parce qu'en fait, souvent on parle de l'égoïsme, mais en fait, l'égoïsme peut être positif. En fait,
Oui, c'est pas égoïste de penser à soi forcément.
Ouais.
C'est d'être bien soi-même. Ma ma grand-mère disait, qu'est-ce que disait ma grand-mère? Elle disait, sois belle et tu seras bien. Je sais plus qu'elle disait, ça va me revenir peut-être tout à l'heure. Mais c'était vrai, quoi. Il y a à côté, on doit être bien, quoi. Donc, être bien, c'est pas être égoïste.
Ouais.
Donc, il faut tout faire pour être en harmonie déjà avec soi-même, quoi. Il faut savoir s'écouter. Voilà, savoir s'écouter, c'est quand même quelque chose de difficile pour une femme. Hein.
Ouais.
Je mets la femme dans ce côté-là, les hommes aussi, sans doute. Je sais pas, je suis pas dans leur peau, mais pour les femmes, ce qu'on entend autour de nous, ouais. Voilà. Et peut-être la nouvelle génération, j'espère, mes filles, j'espère qu'elles s'écoutent plus. Et encore, je trouve pas, quoi. Hein. Peut-être faire encore la génération d'après.
Ouais.
Je parle pas de nos mères, ma mère, ou, non, mais bon, non, c'est, faut penser, voilà, faut penser à soi.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite?
Eh ben, de pouvoir, continuer, dans mon activité, de vitrail, donc de vitrailliste.
Ouais.
Pour le moment, je ne mets pas encore cette casquette, mais bientôt, je pourrais mettre sur ma carte de visite vitrailliste, je ne sais pas quand. Et, longtemps, et pouvoir faire des choses qui plaisent aux gens.
Ouais.
Voilà, j'ai vraiment envie de faire des choses pour les gens, ouais. Ouais, tout à fait.
Et quand tu dis que
égayer
tu peux pas...
égayer leur intérieur.
Quand tu dis que tu peux pas mettre ça sur ta carte de visite, pourquoi tu pourrais pas le faire maintenant?
Ben, je sais pas, parce que je me dis qu'il faut encore apprendre. Bon, je n'aurai pas de formation officielle, parce que je ne vais pas passer de CAP.
Ouais.
À un moment, je me suis dit, il faut que je passe un CAP, puis je me suis dit, bon, finalement, ça sert peut-être pas à grand chose. Je ne vais pas aller, briller les restaurations de patrimoine, quoi. Je vais laisser ça à une génération. Donc, j'ai pas trop besoin d'avoir vraiment un diplôme. Bon. Comme je te l'ai dit au départ, j'attends un an, tu vois, un an de formation. Alors, ma formation, elle est aussi, là, en ce moment, je me forme. Je me dis que je me forme seule, mais je me forme. Donc, au bout d'un an, peut-être, je mettrai vitrailliste sur ma carte. Ou sur mon compte Instagram.
Est-ce qu'il y a pas un petit syndrome de l'imposteur qui se cache derrière ça?
Oui, peut-être. Sans doute.
C'est ce qu'on dit. On dit qu'il y a que les imposteurs, oui, qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur.
Oui, mais oui, sûrement. Oui, oui, ouais. C'est vrai. Donc, je le ferai.
Ouais. Hâte de le voir.
Voilà.
Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu as envie de dire merci à quelqu'un et pourquoi?
Ah. Alors, je dirais merci. Alors, les gens disent merci. Merci à ma mère, merci à mon père. Non. Même si je les adore et je les adore. Alors, je dirais merci à la personne dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, Hugues de Saint-Vincent, qui était, ouais, le créateur de la maison Mango, parce que c'est quelqu'un qui m'a, voilà, qui m'a formé, que j'ai suivi professionnellement. Voilà, ça a été vraiment quelqu'un de très important pour moi, qui a compté. Voilà, lui. Et puis je remercie ici, et maintenant je remercie mon fiancé. Voilà, je remercie mon fiancé.
Ouais.
C'est bien.
Bah
deux,
ouais, c'est déjà
t'as remarqué. Ouais. Des hommes. Hein, des femmes, non, je les remercie pas. Voilà.
Moi, je voudrais juste remercier Iris de nous avoir mis en relation et puis de m'avoir permis de te rencontrer et découvrir ton magnifique histoire et ta magnifique personnalité. Et donc, du coup, on se retrouve dans 3 mois pour savoir est-ce que tu auras pu faire ta formation avec les carreaux de verre et puis de voir comment tes commandes auront avancé également.
Super. Bah, écoute, si tu me mets un... c'est très bien. C'est un challenge aussi. Enfin, un challenge. Gentil, hein, challenge.
Oui.
Pas trop dur. Mais c'est bien. C'est vrai que c'est bien de te retrouver dans 3 mois.
Ouais.
Avec grand plaisir. En tous les cas, je te remercie, aussi de m'avoir écouté.
Avec plaisir.
Et, si ça peut aider d'autres personnes à franchir le pas, à 60 ans ou avant ou après, ça sera, voilà, ça sera mon petit, mon petit exploit à moi.
Merci, merci beaucoup, Marion. Au revoir.
À bientôt, à dans 3 mois alors. Oui. À bientôt, Charlotte. Au revoir.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. La semaine prochaine, nous allons retrouver une femme exceptionnelle qui a également écouté sa petite voix et je peux vous dire qu'elle ne le regrette pas. Allez, à jeudi prochain !